VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 18h à Brazzaville, au Congo. Bonsoir, bienvenue. Quelques 6 millions de Guinéens sont appelés aux urnes dimanche, et cela pour désigner le nouveau président de la République. Beaucoup d'incertitudes demeurent et la violence est montée d'un cran. Nathalie Barge.
Le ton est monté ces derniers jours autour du report du scrutin exigé par l'opposition et rejeté par le président guinéen. Les violences jeudi entre partisans du chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo, et du président sortant, Alpha Condé, ont fait au moins 2 morts et des dégâts importants à Conakry. De retour dans la capitale après presque 3 semaines de campagne, M. Diallo a de nouveau exigé un report pour permettre à des experts électoraux désignés par la communauté internationale de corriger les listes électorales qu'il estime truquées en faveur du pouvoir. Le président Condé s'est fixé l'objectif ambitieux de se faire réélire dès le premier tour. L'opposition l'accuse de vouloir y parvenir à l'aide de fraudes à grande échelle, ce qui est démenti par le camp présidentiel. On ne participera pas à une mascarade électorale, sinon on n'acceptera pas les résultats et je mobiliserai avec tous les autres candidats la population pour refuser, a déclaré M. Diallo, candidat malheureux au second tour face à Alpha Condé en 2010, qu'il avait pourtant largement devancé au premier tour.
Au Burkina Faso, 3 gendarmes et 1 assaillant ont été tués ce vendredi lors d'une attaque par 50 d'hommes armés. Les assaillants ont attaqué la gendarmerie de Samo-Rogouin dans l'ouest du Burkina, près de la frontière malienne, selon un communiqué du ministère de la Défense. Samo-Rogouin se trouve à environ 400 km au nord-ouest de Ouagadougou, à 45 km au nord de la ville d'Orodara, ainsi qu'à 30 km de la frontière malienne et à environ 150 km au nord de la Côte d'Ivoire. La justice du Nigeria a annulé aujourd'hui l'élection d'un sénateur recherché aux États-Unis pour trafic de drogue présumé. Un tribunal électoral de la ville d'Abeokuta, dans le sud-ouest du pays, a déclaré nulle la victoire du sénateur Buruji Kachamu, non pas pour se démêler avec la justice américaine, mais en raison d'irrégularités possibles dans plus d'une centaine de bureaux de vote. De nouvelles élections vont avoir lieu dans les bureaux concernés, a déclaré le juge Toby Ebimowe. Et toujours à propos du Nigeria, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a démenti que le virus Ebola ait été responsable de la mort d'un homme dans la ville de Calabar, dans le sud-est du Nigeria, où 10 de personnes avaient été placées en quarantaine par précaution. La mort d'un patient mercredi au centre hospitalier universitaire de Calabar avait provoqué une alerte à l'Ebola, bien que ses symptômes n'aient pas été précisés.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En République centrafricaine, alors que la société civile, la communauté internationale et la classe politique réagissent à la démission de Dieudonné Kombo Yaya, le président de l'Autorité nationale des élections, au moins 13 350 urnes pour les prochains scrutins sont arrivées aujourd'hui dans la capitale Bangui. Au titre des réclamations, au titre des réactions à la démission du président de la commission électorale, on écoute Annick Marie Service. Elle est la présidente de la plateforme de la société civile.
La démission du président de l'ANE, M. Kombo Yaya, était inévitable. Elle fait suite à la démission de son vice-président. Nous pensons que les béabas de l'organisation des élections, tous regroupés, et que le taux d'enrôlement des électeurs, qui était très faible dans certaines régions, posait problème. Et là, avec tous les événements qu'il y a eu en ce moment, ce n'est pas possible de pouvoir tenir des élections dans ces conditions.
En tant que présidente de la plateforme de la société civile, quelles suggestions avez-vous à faire dans ce cas?
Avec certaines organisations de la société civile, nous avions fait un mémorandum à l'attention du médiateur Denis Sassou Nguesso pour lui signaler cela. Et nous avons demandé que, puisque ce qu'on attendait des autorités en place de ces élections, et que ça va faire la troisième fois que ça allait être reporté, cela démontrait tout à fait que ces autorités n'étaient pas à même de pouvoir amener le peuple aux élections et remplir la mission pour laquelle on les avait désignés. Donc on a demandé à ce qu'il y ait démission de la présidente et que le président du CNT puisse prendre le pouvoir selon les dispositions de la charte en ce qui concerne la vacance de pouvoir.
Annick Marie Service, présidente de la plateforme de la société civile en République centrafricaine, jointe à Bangui par Pascaline Magalé. Ouverture aujourd'hui de la campagne pour le référendum du 25 octobre en République démocratique, en République du Congo, au Congo-Brazzaville. Les Congolais devront donc se prononcer sur un projet de constitution supprimant les deux verrous qui limitent à 70 ans l'âge des candidats et imposent au chef de l'État un maximum de 2 mandats. Éric Manirakiza.
La campagne a démarré timidement, mais le pouvoir a prévu une démonstration de force demain samedi dans le centre de Brazzaville. Des mouvements de jeunesse, de la majorité, sont en train de mobiliser la population pour réussir le pari d'un meeting annoncé comme grandiose. Dans cette manifestation, le régime de Sassou Nguesso veut envoyer un message fort aux opposants du référendum. Et le lieu choisi est symbolique, c'est l'endroit même où l'opposition avait réussi le 27 septembre son plus grand rassemblement depuis 1997 au cri de non au référendum, ça suffit ou ça se dégage. L'opposition promet de contrer ce projet de nouvelle constitution jusqu'au bout. Elle accuse Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans de vouloir perpétrer un coup d'État constitutionnel pour cumuler des mandats illimités.
Au Gabon, Jean Ping revient à la charge. L'ancien patron de l'Union africaine qui a progressivement rallié l'opposition gabonaise se dit candidat à la candidature d'une opposition jusqu'ici morcelée pour une alternance à la famille Bongo dont il fut très longtemps intime. Il est temps de mettre fin à une situation inédite d'un demi-siècle de pouvoir pour une même famille, a déclaré à l'AFP Jean Ping lors d'un passage à Paris, la capitale française. La violence s'intensifie de plus en plus dans la capitale burundaise. Au moins 9 personnes ont été tuées ce vendredi, dont le mari, l'époux de la fille du grand défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, qui aujourd'hui est en soins intensifs en Belgique. 6 bandits figurent parmi les gens qui ont été tués. Ils voulaient braquer la banque de crédit de Bouyanzi. Le point avec Christophe Nkuruziza, correspondant VOA Afrique à Bujumbura.
6 personnes ont été tuées en même temps et une autre blessée tout près du rond-point Pagidas à côté du monument de l'indépendance. La police indique qu'elle a tiré sur une voiture double cabine des bandits qui venaient de dévaliser la banque de crédit de Bujumbura située dans le quartier de Bouyanzi. Un des gardiens de cette banque avait été tué par ces personnes armées. Une autre personne a été blessé. Un peu plus tôt dans la matinée, vers 9h GMT, Pascal Chimirimana, le gendre du défenseur des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa, a été assassiné dans sa voiture devant sa maison, sise au quartier 9, un quartier non contestataire, lorsque des gens armés ont tiré sur lui. Il est mort sur le champ. Il a été abattu à côté de la maison appartenant au porte-parole du parti présidentiel CNDD-FDD, Gelaz Ndabirabe. Une des filles de ce grand défenseur des droits de l'homme avait échappé à la mort il y a quelques temps et aujourd'hui réfugiée à l'étranger. La police affirme qu'elle a déjà commencé l'enquête. Un autre corps sans vie a été retrouvé ce matin dans le quartier de Ngagara, au nord de Bujumbura. Depuis plusieurs mois, l'on insiste à une recrudescence de la violence dans certaines localités de la capitale et de l'intérieur du pays. Christophe Nkonziza, Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Merci à vous, Christophe. Le prix Nobel de la paix 2015 a été décerné au dialogue national tunisien pour sa contribution décisive à la construction d'une démocratie pluraliste en Tunisie dans le sillage de la révolution du jasmin de l'année 2011. Michel Joseph.
Le comité du prix Nobel à Oslo en Norvège a annoncé le prix vendredi, notant qu'il s'adresse aux 4 organisations combinées en Tunisie pour leur travail d'établir un processus politique pacifique après les efforts de démocratie qui ont suivi le printemps arabe, miné par des assassinats politiques et des troubles sociaux. Le comité Nobel a cité le quartet pour la stabilisation du pays à un moment où il était au bord de la guerre civile. Les groupes qui composent le quartet, parrainant le dialogue national tunisien, sont l'Union générale des travailleurs tunisiens, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats de Tunisie. Le printemps arabe est né en Tunisie en 2010 et 2011 et s'est rapidement propagé à d'autres pays, provoquant des soulèvements populaires appelant à la réforme démocratique. Alors que la Tunisie a réussi une transition démocratique pacifique, d'autres pays d'Afrique du Nord et au Moyen-Orient peinent encore à retrouver la stabilité.
Et dans 20 minutes, Le Monde aujourd'hui, notre magazine complet d'informations. Jean-Roger Billon à ce micro. L'information continue également sur voafrique.com. Merci de votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.